Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Moi, j'ai cette originalité, vous pouvez les compter, mais j'en sors. J'ai vécu de la négritude, moi j'en sors, moi. Tandis que les autres s'efforcent d'y rentrer. Pour eux, c'est une boule, c'est mettons, notre coco qui veulent casser, ou ils veulent rentrer dans la négritude. Tous, tant qu'ils sont, ils s'efforcent d'y rentrer. Et moi, j'en sors. J'ai toujours vécu par mes origines, par mon éducation, par mon milieu familial, j'ai toujours vécu nègre. Je suis le point calme parce que je suis dedans. Moi, je suis encore dans la négritude, j'en sors. C'est pour ça que ça m'environne tellement que je n'en parle pas. Je trouve tout à fait normal d'être nègre, bien qu'extérieurement, je fasse le toubab.
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la cave. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Que des générations de lycéens et étudiants francophones ont déclamé ces quelques vers qu'il fallait apprendre par cœur et dire avec le ton. Il est certainement l'un des poèmes les plus célèbres du continent. Celui qui garde vivant l'écrivain sénégalais auquel nous consacrons cette série d'archives d'Afrique. La fin des années 1940 aura donné l'occasion aux élèves et étudiants noirs de découvrir une nouvelle classe de penseurs, d'écrivains et de poètes africains. Des littéraires qui, pour la première fois, parlaient le langage des leurs et qui, chose remarquable, j'allais dire louable, étaient imposés dans les programmes scolaires dans la majorité des États nouvellement indépendants. Ce qui explique l'influence qu'ils ont eue sur les jeunes du continent de cette génération. Rares sont les étudiants noirs qui n'ont pas lu Camara Lai, Senghor, Mongo Betty ou le prodige dont nous allons parler aujourd'hui et qui pendant longtemps a symbolisé de l'Afrique traditionnelle avec ses contes et légendes. Birago Diop restera encore un moment dans les mémoires des Africains avec ses contes d'Amadou Koumba, recueil culte qui aura été pendant plus d'une trentaine d'années au programme scolaire dans toute l'Afrique d'expression française.
Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Ce que pense le soldat, le peuple de France tout entier le pense, lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.
Nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposé. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la vie dernier refuge, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France.
Printemps 1939. La guerre gronde en Europe. Le président Édouard Daladier annonce au peuple français l'entrée en guerre avec le Troisième Reich. L'Allemagne nazie gagne du terrain et a occupé une grande partie de la France. Les forces alliées au général de Gaulle cherchent du renfort dans les colonies, notamment en Afrique.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui domine les mers.
C'est un balayé la plaine, crachant la mort sur nos lignards. Mes enfants, dit le capitaine, faites-moi taire ces broyards. Cette réplique est entrée nette. Les Turcs ont froncé les sourcils, et puis au bout de leurs fusils, ils ajustent leurs baïonnettes.
De nombreux Africains vont, après cet appel, être enrôlés pour aller prêter main forte au général de Gaulle. Les Africains, qui pour la plupart ne comprennent pas toujours l'enjeu et la réalité de cette guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez eux, sont réticents à se laisser ainsi enrôler. Ce qui fait que parfois, ils sont carrément embarqués de force. Pourtant, un jeune féru de lettres, habitant la commune des Quatre Collines au Sénégal, va envoyer un curieux télégramme au gouverneur français.
Patriote comme tout le monde, comme un bon citoyen des Quatre Communes, les Européens qui étaient là, nous avons demandé au gouverneur, par télégramme ou par téléphone, à les servir, à les nous battre. Mais c'était descendu, il nous a répondu que restez-vous, l'on vous disait de rester, c'était encore servir. Alors, nous tous, nous avons été affectés spéciaux.
Mais qui est donc cet intellectuel qui demande ainsi à rejoindre les tirailleurs sénégalais pour se battre pour la France?
Je suis né, comme je suis fier de le dire, par accident au Cam. Parce que ma mère, à son tour de ménage, faisait les 9 km aller-retour pour aller porter à manger à mon père qui construisait le camp militaire de Wakam.
Birago Diop est donc né par accident, comme il le dit, à Wakam, près de Dakar, le 11 décembre 1906, de Ismaël et Sokhna Diawara. Son père, maître maçon, meurt 2 mois après sa naissance.
Je suis le dernier fils d'Ismaël Diop parce que je suis né le 11 décembre et Ismaël Diop est mort le 7 février 1907. Je n'avais pas 2 mois quand il est mort. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que parce que comme j'étais le dernier, qu'on m'appelle Birago. C'était le benjamin de la famille, que ce soit les Dieng, les Dien, je veux dire, les Diouf, les Mbeng et les Diop. C'est les seuls, nous, qui avions les seuls droits de porter le nom de Birago. Je dis déjà, tout jeune, j'étais fier de ne m'appeler ni Amadou, ni Abdoulaye, ni Pierre, ni Jean. D'avoir un prénom qui ne devait rien, me disais-je, à la colonisation arabe ou européenne. Fier jusqu'au jour où mon grand frère Youssoufa, qui m'a beaucoup appris, m'a fait savoir que Birago dérivait tout simplement, si l'on peut dire, de l'arabe Ibrahim, ou du juif Abraham, qui par inversion et contraction a donné Birama, Bourama, un pays mandingue, Ibra et Bira, en Serer et en Wolof. Alors il y a avec adjonction. Là, ce Bira, du terme gore. Tu sais exactement ce que c'est le gore serré. qui désigne, qui est l'inversion de Rog, Dieu. L'homme est l'inversion de Dieu. Alors Rog a donné Gor. Et seulement, par une fantaisie de l'homonymie homographe, ce prénom que je croyais typiquement Wolof est bel et bien un prénom italien. Un nom propre italien. Je l'ai appris en lisant à la page 111 de l'embellie de Chabrol, que la première bombe qui tomba sur l'empire du Négus pendant la guerre italo-éthiopienne avait été larguée par le sergent Birago.
Le jeune Birago Diop sera élevé par sa mère et ses frères dans un Dakar fraîchement promu capitale de la Fédération de l'Afrique de l'Ouest française et en passe de supplanter Saint-Louis. Et
quand j'étais jeune, on m'appelait Toubab Diop à cause de mon teint très clair que je tenais certainement de grand-mère, une grand-mère Peul et Ramso.
Les frères de Birago Diop vont jouer auprès de lui le rôle de père, c'est-à-dire de guide et de modèle. Comme tous les enfants de la région, il reçoit la formation classique Wolof. Il commence d'abord par fréquenter l'école coranique, tenue par des marabouts tout couleur, sans pour autant prétendre aux dispositions du Massila. Mais cela ne le passionne pas vraiment. Il est mauvais élève. Il y apprendra juste de quoi mener ses prières pour rester conforme à la vie de ses pères.
5 ans de l'école coranique, plus ou moins fantaisiste, me permettait de faire l'école buissonnière. Je me payais à coups de pinceau et de taloche, comme tout le monde. Mais comme ça n'était pas loin de la première maison de Thierry, j'allais me réfugier chez les grands-parents et l'éco-épouse de ma mère.
Ce n'est qu'en 1916 qu'il sera admis en cycle primaire. Il entre donc à l'école officielle rue Thion à Dakar. En fait, son âge avancé va lui permettre de faire bouchée double. Son passage au primaire, partagé entre l'étude, le jardinage et la vente des produits maraîchers aux maisons de la place, ne dure que 4 ans. Birago Diop est mauvais élève. Il échoue au certificat d'études et ne peut plus préparer l'école William Ponty, que l'écrivain Bernard Dadier présente dans Climbier comme une voie de garage. Il ne pourra préparer ni une carrière d'instituteur, ce qui était très prestigieux à cette époque-là, ni celle de médecin comme Youssoufa, son frère aîné. Ayant entendu parler d'un concours de bourse pour le lycée Federbe de Saint-Louis, Birago Diop tente sa chance et il est reçu.
Je peux dire que je suis parti au lycée par accident parce que j'ai été collé au certificat d'études. Ceci se passait en juin, mais en juillet, heureusement pour moi, il y a eu le concours des bourses pour le lycée Federbe qui venait d'ouvrir l'ancienne école secondaire, l'école secondaire de Saint-Louis. Et j'ai été reçu aux bourses et j'ai fait le lycée.
C'est ainsi qu'il se retrouve en janvier 1921 au lycée Federbe à Saint-Louis, où enfants d'indigènes et français se côtoient. Le jeune Dakarois apprend à rimailler. Il se passionne pour Alfred de Musset. En littérature, il s'arrête à la convergence entre le Moyen-Âge français et la sagesse de l'Afrique traditionnelle. Il va poursuivre des études secondaires au lycée Federbe. Conformément au programme de France, mieux il y tire le meilleur parti de ce cas unique à l'époque de promiscuité raciale. Il y acquiert une formation classique profonde, mais quelque peu restrictive, en ce sens que l'enseignement se détournait de l'actualité et prétendait ignorer l'Afrique et ses réalités. Une double fuite en avant. Juin 1928, Birago Diop obtient son brevet de capacité coloniale, qui sera transformé en baccalauréat. Alors, l'hypothèque de la maison familiale va lui permettre d'aller entreprendre des études en France.
Du moment que j'étais bachelier, que mon frère était médecin de Youssoufa, qui a été mon maître, mon grand maître depuis toujours, était médecin, je voulais me faire médecin. J'avais pas d'argent et les parents y consentis à hypothéquer la maison, en tablant sur moi, sans savoir ce que j'allais devenir. Je suis parti en France avec un mois de retard. J'ai fait le PCN. Je m'en suis sorti en moyenne quand même, avec 77, je crois, sur 105 points. Seulement, l'hypothèque était déjà finie. Ou plutôt, l'hypothèque, tout compte calculé, tout compte fait, il y avait pour 4 années, il y avait encore pour 5 ans de médecine après le VCN, alors qu'en vétérinaire, il n'y avait que 4 ans. Mais là, même en calculé, que l'hypothèque ne suffisait pas, et j'ai écrit à Blaise Diagne, qui m'a fait avoir une bourse de vétérinaire, parce que c'était les seules bourses qu'on donnait pour la France.
Ce grand dépaysement subi ne va pourtant pas avoir raison de l'immense personnalité de Birago Diop, qui savait exactement ce qu'il était venu faire en France. Il n'hésite donc pas à s'opposer au choix que le maître responsable de son orientation fait pour lui.
J'ai passé le bac et encore dessus, c'est un problème, parce que j'étais assez fort, disons, à toutes les matières, mais enfin, j'étais plutôt Pour force, c'est une façon de m'inventer. Enfin, j'étais pas mal, ni en chimie, ni en physique, ni en mathématiques. Et j'ai passé le bac sciences-langues. Et quand je suis arrivé en novembre 27 pour entrer en, soit en philo en maths, le proviseur Morel m'a accueilli en me disant, Birago, tu fais mathélème naturellement. Et c'est la première fois, je crois, que je me rebiffais devant un patron, un chef, un maître. J'ai dit non, je fais philo. Par réaction, il m'a dit, foutez-moi le camp, j'ai foutu le camp et j'ai fait philo. Et j'ai failli, d'ailleurs, échouer en philo parce que je n'étais pas fait pour faire le philo, étant donné mon état d'esprit. Et notre professeur d'anglais qui savait tout, qui nous apprenait, c'était l'humaniste en antillais, Trucillo. Il disait qu'on faisait sa philosophie qu'une fois qu'on avait fini philo. Enfin, je m'en suis passé, je m'en suis sorti avec un 11 et les félicitations de Raymond Day, qui était proviseur, ça ne s'appelait pas proviseur, c'était principal, enfin le cours secondaire de Dakar, qui deviendra le lycée en haut.
Très vite pourtant, il se rend compte qu'avec les fonds dont il dispose, il ne pourra pas aller au bout des 5 années d'études de médecine qu'il souhaitait entreprendre. Il cherche alors une bourse et c'est Blaise Diagne, député du Sénégal au Parlement français, qui lui en trouve une. Birago Diop s'oriente alors vers la médecine vétérinaire, seul domaine dans lequel on accordait des bourses pour la France.
Non, j'ai fait des études de vétérinaire par accident aussi. Je suis né à Wakam par accident, j'ai fait des métiers de vétérinaire par accident aussi, ou plutôt parce que, comme je ne sais pas si je t'ai dit, ben, c'est l'exemple de Youssouf m'avait frappé, j'ai voulu toujours me faire médecin. Oui, Youssouf, oui, ça a été le premier médecin, le premier sorti de l'école de médecine africaine, Youssouf, mon frère aîné. Et ensuite, alors après le doctorat, je suis allé à Paris pour l'Institut de sciences, l'Institut exotique, de médecine vétérinaire exotique, on appelait ça. Et là, c'est que j'ai retrouvé Cédar et les autres.
Novembre 1933, Birago Diop sort diplômé de l'école vétérinaire de Toulouse. Il se rend ensuite à Paris pour un stage à l'Institut de médecine vétérinaire exotique de Maison Alfort. Heureux concours de circonstances, Africains, Antillais, Noirs américains se retrouvent, s'allient sous la bannière de l'africanisme rénové.
Ah ben à Paris, ben nous avons fondé enfin, ce que nous appelons enfin, maintenant enfin, l'étudiant noir. Et comme j'étais, les autres étaient étudiants, tandis que moi déjà j'étais fonctionnaire, c'était chez moi, enfin à l'hôtel colonial, qu'on appelait l'hôtel colonial à cause l'exposition coloniale. Et ces gens-là étaient bien assez opportunistes d'ailleurs, parce qu'entre temps c'était février 34, il y a eu l'histoire de la place La Concorde, qui est rentrée dans l'histoire de France, et bien ils se sont empressés tout de suite de rebaptiser l'hôtel Concordia Hôtel. Voilà.
Bien sûr.
Ce qui fait que nous on a commencé à nous réunir au Colonia Hotel et nous avons fini par nous. On continue par un Concordia Hotel.
Il arrive à Paris à point nommé, au moment où une fermentation intellectuelle s'empare de la communauté noire qui est passée par les étapes connues de l'œuvre Légitime Défense en 1929, de la Revue du Monde Noir en 1931. Quant aux Américains, ils apportaient leur expérience de la Renaissance nègre. De cette convergence de mouvements culturels conçus et développés dans les diverses régions de la diaspora noire, allait naître l'école de la négritude et son organe, l'étudiant noir. Comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Birago Diop, le médecin vétérinaire sénégalais trouve là un cadre propice à l'expression de son talent littéraire. On en parle juste après une nouvelle édition du journal URFI. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sur la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
Arrivé en France pour faire des études de médecine comme son frère aîné, à qui il voue un véritable culte, il s'est finalement retrouvé, par accident comme il le dit, à suivre des études de vétérinaire. L'hypothèque que ses parents avaient prise pour ses études n'étant pas suffisante pour permettre la longue formation de médecin. Son doctorat de vétérinaire en poche, en pleine période d'occupation allemande en France, il décide de monter à Paris. C'est la période du grand foisonnement intellectuel noir dans la ville Lumière. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Birago Diop. Son stage à l'école vétérinaire de Maison Alfort, près de Paris, Birago Diop va rencontrer le monde intellectuel noir de la capitale française. Heureux concours de circonstances, Africains, Antillais, Noirs américains se retrouvent, s'allient sous la bannière de l'africanisme rénové. De cette convergence de mouvements culturels conçus et développés dans les diverses régions de la diaspora noire, allait naître l'école de la négritude et son organe d'étudiants noirs. Il est vrai que si cette intelligentsia collabore à cette revue, l'aspect politique ne s'imposera qu'au lendemain de la guerre. Tout concourt à porter au premier plan les cultures et les civilisations noires. L'africanisme se renouvelle et s'affirme par la publication des œuvres de Frobenius, de Delafosse et autres. Les étudiants noirs y trouvent comme une inspiration et un soutien. Birago Diop n'est pas seulement le témoin de tout cela. Il participe effectivement aux réunions de groupe d'où naîtra l'étudiant noir.
Pour les premières réunions, nous ne parlions pas, je vous avoue, nous ne parlions pas politique, nous parlions littérature, si vous voulez. Je crois qu'on brassait de tout, mais c'était surtout en fait en rapport avec les Antillais d'abord, ce qui a été un problème pour moi, comme je l'ai dit, parce qu'ici, comme vous savez, la réputation qu'avaient les Antillais au Sénégal, en Afrique noire, quoi. C'était les sbires, les Européens, quoi. Ils étaient plus mauvais et plus méchants que ce soit les Martiniquais. Nous les appelions d'ailleurs des macafoutes. Moi, je te fous, bien, moi qui tiens bien, je te tiens, je te visse, quoi. Alors quand Senghor m'a parlé d'avoir des contacts avec les Antillais, ben, j'ai été réticent. Alors Senghor m'a dit, ben, Birago, ce sont nos aïeux qui ont vendu les leurs.
Mais il ne faut cependant pas perdre de vue que Birago Diop n'est pas un homme de système ou de chapelle. Il se garde toujours de s'inféoder aux individus ou aux idéologies du moment. S'il adhère aux principes qui inspirent ses amis du groupe de l'étudiant noir, il n'en garde pas moins sa liberté. De toute évidence, son séjour à Paris aura été trop bref pour qu'une influence puisse s'exercer sur lui.
J'ai eu cette chance, que les années que j'ai passées à Toulouse, ça m'a permis de garder ma personnalité, de ne pas être rentré. Je ne suis arrivé que quand j'étais mûr à Paris, hein, aux années 34. Ce bouillonnement politico-littéraire, je les ai connus très tard, quand je suis revenu. Autrement, je crois que si j'avais été à Paris, ben, je n'aurais pas eu la même personnalité.
1934. Le docteur Birago Diop, qui vient d'épouser une comptable toulousaine, Marie-Paul Prader, décide de retourner en Afrique. Un choc pour sa mère.
Quand je suis rentré marié avec une Européenne, alors qu'on m'envoyait en France faire mes études, ben, c'est mon beau-père qui était avocat général qui m'a défendu. Comme ma mère écoutait tout ce qu'il disait. Ben...
Faut dire qu'il est loin d'être dans cette période le seul à être revenu en Afrique avec une femme blanche. À Dakar, ils sont quelques-uns dans cette situation de métissage.
Comme dit l'autre, l'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident. C'est ça que j'ai su aussi avec ma femme. Hein. Avec ma femme, nous n'étions pas quand même de la même race ni la même mentalité. Quoi. L'Est et l'Ouest, comme dit Kipling. Parce que du jour où j'ai fini de payer la maison, t'es à Caille, l'hypothèque, ma femme m'a dit, ben, tu ne dois plus rien à tes frères.
Ah, alors, oui. Il a fallu que je lui explique jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle. Ça sera toujours avec mes frères. Parce qu'ils s'étaient sacrifiés, ils avaient hypothéqué leur pain. Alors là, ça a été une des premières heurtes, si tu veux. Mais enfin, j'ai compris que, quel que soit l'amour, quelle que soit l'affection qu'on porte à l'étranger, ben, il y a toujours une faille, endroit où l'on a. Hop.
Son métier de vétérinaire le condamne le plus souvent à vivre plus en brousse qu'à la ville, c'est-à-dire au contact des hommes, de la tradition, au sein de l'Afrique authentique. Birago Diop parcourt le Soudan français, actuel Mali, rencontre des hommes de toutes conditions, s'intéresse aux traditions. Ce qui n'est que folklore aux yeux de l'étranger recèle des significations profondes. Il se met même à dessiner les traits caractéristiques des langues africaines. Quand il se repose, il se remémore les moments exquis de son enfance, les contes de sa mère ou de sa grand-mère, la voix de Goël Mbaye, les contes de son frère Youssoufa.
Je m'ennuyais en brousse, j'avais assez d'accogiter tout seul, toute une journée à cheval, toute une journée à bicyclette. On me défendait de travailler avec mes infirmiers ou avec mes instructeurs ou mes vétérinaires africains, sous prétexte que j'étais le chef de service. Alors, à faire des rapports, tout le temps des rapports, ça ne me satisfaisait pas, et alors je me suis rappelé tous les contes d'enfants ou ce que j'avais lu, ce qu'on m'a raconté.
C'est au cours d'une de ses tournées en brousse que Birago Diop fait la connaissance du griot de sa famille, Amadou Koumbangom, vieillard savant d'Isert qui thésaurisait l'histoire de son terroir natal. Amadou Koumba, témoin de l'histoire, gardien de la tradition, avait accompagné le fondateur de la secte des Mourides, Amadou Bamba, exilé au Gabon.
Amadou Koumba, quand je l'ai rencontré, il avait presque 60 ans, quoi. Au cours d'une tournée du Sénégal au Soudan, entre Kay et Kilira, je l'ai trouvé chez un oncle qui était commerçant. Et c'est là où nous avons fait connaissance. Je remontais ou descendais la Falémée, et le soir je rentrais. En ce moment-là, donc, on m'a raconté des histoires. Des histoires de famille, et puis alors des contes aussi. Quelques contes, pas beaucoup.
C'est vrai que Birago Diop doit un certain nombre de contes à Amadou Koumba. Mais la critique a quelque peu exagéré l'importance de celui-ci sur son œuvre entière. Il n'est resté avec lui qu'une semaine. Il l'a revu deux fois en des circonstances fortuites et très brèves. On sait qu'une influence aussi profonde requiert des fréquentations plus suivies.
La Mamadou Koumba n'est que un prête-nom, ce n'est que le pavillon qui couvre la marchandise. De tous mes comptes, ben, il n'y en a peut-être pas 4 ou 5 de Mamadou Koumba. Mais j'ai trouvé très commode de mettre ça sous la bannière d'Amadou Koumba.
En réalité, son influence est beaucoup plus diversifiée.
Comme tous les gosses, on s'endormait toujours sur les cuisses de sa grand-mère, quelque fripé qu'elle soit, comme on dit en Wolof. Tu te couches toujours sur les cuisses de ta grand-mère, quelque fripé qu'elle soit. On commence d'abord par les grand-mères, par la mère, ensuite par les griots ou les mbandakal, parce que j'ai rencontré assez de monde quand même. Et puis alors j'ai été trouvé aussi, même en brousse aussi, quand j'étais en brousse, je m'asseyais, bien même quand je ne comprenais pas, je me faisais traduire par l'infirmier ou le vétérinaire africain, parce que ça m'intéressait.
En 1937, Birago Diop retourne en France pour ses congés. Le groupe de l'étudiant noir ne se contente plus de débats idéologiques. Il est passé dans la phase de création littéraire. Après Karim, Ousmane Sossé va donner Mirage de Paris, contraint Damas de son côté public coup sur coup, retour de Guyane et Pigment. Quant à Léopold Sédar Senghor, il a déjà réuni les pièces qui constitueront Champ d'ombre. Birago Diop découvre véritablement les écrivains de la Renaissance nègre présente à Paris. Il retourne au Soudan, actuel Mali, pour un séjour de 5 ans et qui sera de loin le plus fructueux. Il a mûri. Il s'est départi de toute théorie, de toute idée préconçue pour se livrer à l'école africaine. Il devient très attentif à la poésie traditionnelle, au chant généalogique et au chant des circoncis.
Es folgt damit aber die Schreckung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Nation auf einer Ebene.
En cette fin de la décennie 30, le climat est des plus tendus en Europe. Le chancelier allemand Adolf Hitler a décidé d'instaurer sa suprématie sur le vieux continent. il s'est lancé à la conquête de plusieurs de ses voisins. La France n'y échappe pas. Elle est malmenée par les forces du Troisième Reich. Après l'enfoncement de plusieurs lignes de défense françaises vers le 10 juin 1940, la défaite dans la bataille de France apparaît inéluctable. Dans ces conditions, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, s'exprime dans un discours radiophonique à 12h30 le 17 juin depuis Bordeaux, où il annonce qu'il faut cesser le combat.
Ici Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, à l'appel de Monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Birago Diop est à ce moment-là au Soudan français, actuel Mali. Il est surpris par cet armistice.
Ce qui a été terrible, ça a été surtout la débâcle. C'était juin 40 surtout, parce que les journaux ou la radio nous bourraient tellement le monde, nous étions vaincriants, nous serions les plus forts, tout le monde y croyait, jusqu'au jour où nous avons appris au plein cœur du Soudan ce qui s'était passé en France.
Dès le lendemain de cet armistice, depuis Londres, le sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre, le général de Gaulle, lance son appel du 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, reprochant à Pétain le principe même de l'armistice, qui livrait la France pieds et poings liés au Reich et invitant les Français à résister à l'ennemi.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisés, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats, nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Si cet appel n'est que peu entendu dans la métropole, il va ouvrir un nouveau front et au fil de quelques mois susciter la levée d'une véritable armée coloniale dans l'Empire. Birago Diop fait partie de ceux qui vont demander à rejoindre cette armée pour se battre pour la France.
Patriote comme tout le monde, comme un bon citoyen des quatre communes, les Européens qui étaient là, nous avons demandé au gouverneur par télégramme ou par téléphone à les servir. Allez nous battre. C'était de senti, il nous a répondu que restez où l'on vous disait de rester, c'était encore servir. Alors, et nous tous, nous avons été affectés spéciaux.
En 1942, Birago Diop revient en congé en France, plus précisément à Toulouse. Mais il ne peut retourner en Afrique à cause de l'occupation allemande. Il monte alors à Paris, retrouve ses amis du quartier latin. Dans un quartier nommé Mephisto, il rédige certains des écomptes. Seulement, il n'est pas connu dans le milieu de la littérature et ne réussit pas à trouver un éditeur pour publier ce genre nouveau, les contes africains.
C'est à Senghor que je les ai donnés. Alors c'est Senghor qui a essayé d'aller porter chez Flamand au Seuil. Et au Seuil, on lui a dit que c'était vraiment trop éloigné de la mentalité française. Quoi. Exactement.
L'un de ces contes, commandé par Léon Gontran Damas, poète écrivain et homme politique d'origine réunionnaise, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, paraît dans la revue du Monde sous le titre « Jugement ».
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
C'est la fin de la guerre. Pour Birago Diop, c'est le moment de l'explosion littéraire. Les premiers éléments du conte d'Amadou Koumba paraissent dans la presse et dans les anthologies, soit dans les plus beaux écrits de l'Union française de Senghor en 1947. Il marque dès ce premier livre sa prédilection pour la tradition orale des griots, ces conteurs populaires dont il ne cessa jamais d'écouter la voix, respectueux de l'oralité.
J'ai écrit parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se perdre, qui allait s'en aller, parce que je crois que s'ils n'avaient pas écrit mes contes d'Amadou Koumba, peut-être si notre jeune peut-être, mais comme les jeunes n'ont pas eu la chance que nous avons eu, nous, d'avoir entendu les vieux ou les moins vieux,
oui, d'avoir
il fallait se dépêcher. Parce que surtout parce que j'avais eu la chance d'avoir eu l'autre grand frère, l'aîné, qui m'a déclaré d'ailleurs à l'état civil, Massilav, qui était aussi un écrivain, un journaliste. C'est l'exemple de Massilav qui m'a poussé à écrire.
Les contes de Birago Diop dégagent un charme tout particulier. Ils sont encore proches de la parole des griots, qu'ils restituent dans leurs gestuels et leurs apartés, dans l'alliance de l'humour et du réalisme.
Mort l'âme, immédiatement après la dernière génuflexion, demanda à l'écart à sa femme « Où est l'os ?»« L'os est là-bas. » S'est-il amolli? Awa s'enfuit dans la case et revint. Il s'est amolli. Ce Moussa, fit le mari tout bas, mais la rage au cœur. Ce chien ne veut pas s'en aller. Awa, je vais tomber malade. Ainsi dit-il. Ainsi fit-il.
L'os, qui paraît dans le numéro inaugural de Présence africaine, va marquer un tournant dans la carrière littéraire de Birago Diop, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Birago Diop. L'écrivain sénégalais, dans cette partie de sa vie, va, c'est sûr, marquer la pensée de millions de jeunes Africains par son œuvre. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. À très vite.
Une semaine d'actualité.